¡Ay, qué fiebre hay! No, 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 ay, ay.
Salut à vous, à la recherche du groove perdu, session 270, émission musicale à géométrie variable sur la musique, les 16 histoires, diffusion radiophonique sur RDWA, Radio Saint-Ferréol, Radio Dragon, Radio Transparence et sur la web radio Trafic de Rock. Les podcasts dispo comme d'hab sur le site de RDWA. Aujourd'hui, deuxième volume du cycle sur les révoltes d'esclaves et d'anciens esclaves dans les Caraïbes à travers différentes histoires ayant eu lieu en Guadeloupe, Haïti et Jamaïque la semaine dernière. Il a été question de la révolution haïtienne à travers les personnages de Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines. J'ai évoqué aussi l'histoire de la mémoire de Louis Delgrès qui a déserté les rangs de l'armée française en 1802 pour se ranger du côté des Guadeloupéens qui refusaient le retour de l'esclavage sur l'île. Autre île, même histoire de résistance et de rébellion des esclaves face aux colons anglais cette fois. On va s'intéresser durant une heure à l'histoire du marronnage et des révoltes d'esclaves en Jamaïque. Les esclaves de Jamaïque sont connus dès le XVIIe siècle pour être particulièrement turbulents et peu dociles et parmi les plus rebelles des Caraïbes. Dès le début du XVIIe, des premiers esclaves s'échappent des plantations et vont monter des camps de marrons dans les montagnes en des endroits inaccessibles pour la plupart. Les esclaves jamaïcains, tout particulièrement les marrons, se révoltèrent plus d'une douzaine de fois entre 1673 et 1832 et établirent des communautés indépendantes d'où il était difficile de les défaire, comme il fut dénombré lors d'importantes expéditions militaires anglaises des années 1730 et 1790. La première guerre ouverte entre marrons et autorités coloniales anglaises se déroula entre 1725 et 1740. Parmi les leaders les plus actifs et les plus charismatiques de cette rébellion, on trouve une femme, la Nanny des Marrons, Nanny Maroons, comme on l'appelle en Jamaïque. Cette dame érigée en héros national dans son pays d'adoption est née au Ghana vers 1686, une Ashanti amenée en Afrique en tant qu'esclave et qui va fréquenter très vite les leaders marrons. On s'écoute le premier morceau du jour du Granny Nanny Cultural Group. Et le morceau Granny Nanny comme Ho musique. De l'année 1720, Nanny Maroon s'installe avec d'autres esclaves dans un camp situé sur une crête, un endroit accessible uniquement par un sentier étroit et bordé d'un précipice qui rendait périlleux toute embuscade britannique. Cet espace nommé Nanny Town, qui s'étendait sur plus de 2 km², s'est très vite organisé pour faire vivre ses occupants dans les meilleures conditions possibles. Un mode de vie basé sur celui des Ashanti, qui utilisaient troc de nourriture, d'armes, de vêtements. Pratiquant l'élevage et l'agriculture, une communauté indépendante et libre dans une enclave britannique, un village d'irréductibles au milieu d'un empire esclavagiste. À partir de 1728, Nanny Town est fréquemment attaqué par les forces anglaises. Les marrons sont mieux équipés et connaissent mieux le terrain montagneux que les anglais. Mais le camp sera finalement défait en 1733. On ne sait pas ce qu'il est advenu de la Nanny Maroon. Certaines sources la disent tuée en 1933 durant l'assaut. D'autres assurent qu'elle a survécu et qu'elle est morte de sa belle mort vers 1760. On ne saura certainement jamais, mais cette force de la nature a pendant plus de 30 ans libéré près de 1000 esclaves et les a aidés à s'installer dans des communautés autonomes. Nanny Maroon est célébrée à travers quelques chansons dans la musique jamaïcaine, mais pas que, comme le montre ce deuxième son du jour, celui de Sons of the Kemet, groupe moderne d'une sorte de free jazz fortement influencé par l'héritage culturel africain et caribéen. On écoute le morceau « My Queen is Nanny Maroon ».
Mm-hmm.
Sons of the Kemet, My Queen is Nanny Maroons. On quitte l'histoire de Nanny Maroons, on avance un peu dans le temps pour se retrouver en 1760 où se déroule la deuxième grande offensive des esclaves marrons de Jamaïque contre les colons britanniques. On l'appelle la révolte de Taki ou guerre de Taki qui opposa les esclaves issus de l'ethnie Akan aux forces militaires de l'Empire britannique. Le soulèvement se fera entre mai et juillet 1760. Il s'agit d'une des plus importantes rébellions d'esclaves dans les Caraïbes, entre l'insurrection de 1733 et la révolution haïtienne de 1793. Selon les historiens, cette révolte a eu un impact considérable, un véritable choc subi par le système impérial, le premier coup de butoir des peuples opprimés dans les colonies caribéennes. Le leader de cette rébellion, Taki, était originaire du groupe ethnique des Fanti, issu de l'Afrique occidentale au centre actuel du Ghana. Il était issu des plus hautes sphères sociales de ce groupe ethnique et faisait partie des chefs les plus influents. Taki était roi de son village et participa à la vente de ses rivaux Ashanti, fait captif au cours des guerres locales auxquelles il participa. Il fut par la suite lui aussi réduit en esclavage, probablement après une défaite militaire. Il fut vendu et déporté en Jamaïque. Arrivé là-bas, Taki s'échappera très vite des plantations pour aller rejoindre les marrons. On le retrouve notamment aux côtés de Nanny Maroons en 1733, dans la première guérilla ouverte avec les colons, un homme dont on sait peu de choses, mais qui a eu une grande importance dans ce soulèvement de 1760. On écoute Horace Andy, Every Tongue Shall Tell, pour la suite du programme. À toutes. Aura Sandy, Every Tongue Shall Tell. En 1831, éclate une autre révolte de grande ampleur connue sous le nom de Baptist War ou la révolte de Noël. Il s'agissait à l'origine d'une grève pacifique menée par le prédicateur baptiste Samuel Sharp. Cet homme né dans une plantation vers 1800 et qui fut affublé du même nom que son maître reçut une instruction qui lui permit d'être prêcheur. Sa position de chef spirituel lui a aussi permis de faire passer ses idées politiques et ainsi toucher un large auditoire auprès des esclaves. Alors que le Parlement britannique discute en coulisses d'abolir l'esclavage, Samuel Sharp croit à l'abolition proche et décide d'initier cette grève générale pacifique pour la fin d'année 1831 au moment de la récolte de la canne à sucre. Il est pendu le 23 mai 1832 par les autorités britanniques. Au regard de son implication dans cette révolte d'esclaves, Samuel Sharp a été proclamé héros national de la Jamaïque et son visage est représenté sur les billets de $50 jamaïcains. Il est mentionné aussi dans cette chanson de Junior Ching Sinclair qui figure sur un album entièrement dédié à tous les héros jamaïcains. Musique.
Nations of the world, irrespective of classification, color or creed, whether you're of the old or new breed, will one day come together under the umbrella of peace, love, and respect for each other. And I, Junior Shindig Sinclair, saying you must always be willing to forgive, but never forget where you're coming from.
Do you remember our national heroes?
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 Samuel Sharp, born in 1801 in Montego Bay. Sam Sharp is a major figure in the history of the human struggle for the freedom against oppression, of might against right, and of free labor against slavery. His struggle culminated in the Baptist War of the 1831-1832, which was a major factor in granting freedom to some 500,000 black people in the British Empire, the greatest imperial power in the 19th century. He grew up as a house slave and was well educated by his master, also named Samuel Sharp. His campaign now hailed as the Western Liberation Uprising, and by others as the Emancipation Rebellion, was the 29th major violent attack by the slaves against the planters. It adds eloquent proof that the African people taken to Jamaica never accepted their condition to this desecration of their human rights. The brutalized people started meeting at night, reading newspapers from Europe, telling of the fight against the system. But there was no reprieve. In 1831, Sam Sharp started plotting with the other Baptist class leaders in Hanover, St. James, and Trelawney to stage a strike after the Christmas holidays of December 25th and 27th. They believed that Queen Victoria of Britain had granted freedom and the planters had refused to obey the law. They would therefore have to take freedom by force. On December 28, 1831, after the planters ordered a return to work, the revolt started with the burning of Kensington Estate in the hills of St. James, then the Palmyra on the coast, and the night lit up like stars in the sky. The planters of all western parishes fled to the towns with their families. 14 white people were killed, dozens of great houses, factories, and fields were destroyed, and a martial law declared. Between 25,000 and 40,000 withdrew their labor. It was one of history's great resistance movements, a response to over 200 years of oppression. The power of guns restored control to the authorities,
and 750 were found guilty, of whom 580 were executed. Daddy Sharp, as he was called by his followers, surrendered in Montego Bay and claimed sole responsibility for planning and executing the insurrection. Sentenced to death, as he expected, Daddy Sharp spoke for all mankind the following immortal words.
Cette grève générale de 1831, initiée par Sam Sharp, se transforme rapidement en une rébellion qui dura au total 11 jours et mobilisa entre 60 000 et 300 000 esclaves de la Jamaïque. Difficile d'avoir un chiffre exact à ce sujet, mais cet ordre de grandeur témoigne de la mobilisation massive des esclaves. La rébellion fut rapidement réprimée par les forces britanniques et les propriétaires planteurs qui ont riposté de manière brutale pour défendre leurs intérêts. Environ 500 esclaves sont tués lors de cet événement. Une vingtaine seulement parmi les colons, suite aux pertes matérielles et humaines provoquées par cette révolte, le Parlement britannique ouvre deux enquêtes dont les conclusions allaient grandement contribuer à l'abolition de l'esclavage dans tout l'Empire britannique le 1er août 1834, la fin de 400 ans d'esclavage à la Jamaïque.
Of colonial reign has brought the people misery, has left them such pain. The talk is now of independence, you see. Seems it wasn't meant for you or for me. As strangers we came, slave trade was the game. And ever since we don't even know our name. Our heritage we must remember. That they did to mother and father. So people, people, for what it's worth, demands your freedom here upon earth. Stop asking when, where and how. Make up your mind, the time is now. Demands your freedom here. upon earth. Stop asking when, where, and how. Make up your mind, the time is
La recherche du groove perdu, session 270. On s'intéresse cette semaine à l'histoire du marronnage et des révoltes d'esclaves en Jamaïque. On a évoqué la mémoire de Nani Maroon en début d'émission, de Taki, de Sam Sharp, tous trois érigés en héros sur cette île. Après la guerre baptiste de 1831, on avance un petit peu dans le temps pour évoquer une autre révolte majeure face à l'Empire britannique. Menée celle-là par un certain Paul Bogle, celle de Morant Bay en Jamaïque qui s'est déroulée en 1865. À cette date, l'esclavage est officiellement aboli depuis 27 ans. Malgré ça, les anciens esclaves se retrouvent sans terre et accessoirement sans citoyenneté effective malgré les promesses. Dans ces conditions de survie, difficile de se nourrir sans terre à cultiver, certains se regroupent et par le biais des noirs les plus lettrés, envoie une demande à la reine d'Angleterre. Celle-ci refuse l'octroi de terre et leur conseille de travailler plus dur pour s'en sortir. L'ancêtre du travailler plus pour gagner plus de Sarkozy et cette vieille rengaine capitaliste qui martèle à qui veut l'entendre que si on veut, on peut, quel que soit le milieu social auquel tu appartiens au départ. Dans le capitalisme, le déterminisme social et racial n'existe pas. Vas-y, bosse et tu gagneras plus, même si au final, ça ne change rien à ta condition d'homme misérable et exploité. Devant ce mépris total face à ces revendications légitimes, quelques-uns décident donc de prendre la force des plantations abandonnés et d'en faire leur lopin de terre. Dans ce contexte, le 7 octobre 1865, un homme noir est condamné et emprisonné pour avoir franchi les limites d'une plantation abandonnée qu'il compte exploiter. Après quoi, le 11 octobre, un groupe se dirige vers Morant Bay pour manifester. Groupe emmené par Paul Bogle, devenu héros national en Jamaïque. En réponse, le gouverneur anglais Edward Eyre, un grand humaniste, envoie une milice de volontaires européens qui balaye 439 noirs directement et en capture 350 autres. Ces derniers sont exécutés publiquement sans procès. 600 autres noirs jamaïcains sont fouettés ou emprisonnés. Voilà toute la grandeur des anciens empires coloniaux, celle que certains regrettent et érigent en exemple. Eh bien, messieurs, ouvrez les bouquins relatant toutes ces histoires et vous verrez que tous ces détails sordides ne sont qu'une infime partie des préjudices portés à ces populations. Le tube de Third World, 96 Degrees in the Shade, raconte cette histoire grâce au récit de George William Gordon, un métis anglais qui protégea notamment Paul Bogle dans cette histoire. Lui aussi fut arrêté et pendu et prit le temps avant de mourir de se plaindre de la chaleur étouffante qui sévissait le jour de son exécution. 96 degrés Fahrenheit, soit 35 degrés Celsius à l'ombre. Sorti en 1977, ce titre est devenu un hymne du reggae roots, le tube incontesté de Third World et une référence en termes de black music à toutes.
In the shade, 96 degrees in the shade, real hot,
oh yes,
in the shade.
À la suite de cette révolte de Moran Bay, le gouvernement britannique sera plus attentif aux revendications de la population et mettra en place un système judiciaire plus honnête, améliorera le réseau routier, le système éducatif et les services de santé. Une statue de Paul Bogle sera érigée au Moran Bay Square, sculptée par Edna Manley, la femme de l'homme politique Norman Manley, en 95. Les pièces de 10 cents sur l'île seront frappées à son effigie, considérées comme le symbole de la rébellion face à l'oppression coloniale britannique. Paul Bogle a été chanté par de nombreux artistes de musique de reggae jamaïcaine et anglaise comme The Cimarrons, Agrovators, Rolando Alfonso, Steel Pulse. Voilà les 4 prochains morceaux avec pour thème cet homme, Paul Bogle.
Call his name out loud, everybody, yeah. Paul Bogle was a leader of most right. Was a leader of first right. He traveled a long, long way across the valleys. Although the road was rough and so many rivers to cross, he tried to set us free right in the heart of Spanish Town. He traveled a long, long way across the valley.
is in heaven. Well, well, well.
The days are old.
Pour la fin de ce cycle d'émissions sur les révoltes d'esclaves dans les Caraïbes, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour tout autre chose, à savoir du hip-hop en provenance du Chili, le pays du hip-hop en Amérique du Sud. En attendant, je vous laisse avec l'homme Rudy Thomas et son Grandfather Bogle pour terminer cette sélection du jour, probablement l'un des rares morceaux de roots reggae où la flûte à bec est utilisée. Le flûtiste n'en joue pas très bien, ça fait vraiment le mec qui avait pas autre chose sous la main. C'est le génie créatif jamaïcain qui parle. C'était à la recherche du groupe perdu sur votre radio locale. Rudy Thomas, Grandfather Bogle. Bonne soirée, bonne semaine. Ciao.
The name is Upal Bogle. I am the son of the son of the first one. Yeah. The name is Upal Bogle. I am the son of the son of the first one. But I will be dreader than the first one.
Dread.
As the son of the son of the first one. Yes, I will be dreader than the first one. The son of the son of the first one. I nah come from no east. So you, me enemy can see me. You just can't see me. You can only feel me. Me say me name is Upal Bogle. I am the son of the son of the first one. Yes. Grandfather Bogle, I wish he was around today. I won't be like old Marcos. I no want no right hand man. That way no one can sentence me.
Dread.
That way no one can betray me. That way no one can frighten me. That way no one can abandon me. Yes, the name is Upal Bogle.
Chicago.
What?